Il est 8h sur Europe 1.
Mettre la pression sur son interlocuteur, faire en sorte qu'il soit amené à prendre une décision rapidement. Toutes ces techniques-là, en fait, elles sont utilisées de manière très, très habile, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs.
Ce sont des négociations tendues, celles qui opposent en ce moment les producteurs et la grande distribution. Emmanuel Macron affiche son soutien aujourd'hui aux agriculteurs. Le retour à la vie normale promise aux Britanniques par Boris Johnson. L'horizon est fixé, mais ça va prendre quelques mois. Et puis le 15 de France de rugby n'en finit pas de perdre des joueurs contaminés. Il faudra pourtant bien composer une équipe si le match a lieu dimanche face à l'Écosse. Juste après ce journal, l'interview politique avec la ministre du Travail. On va reparler de l'apprentissage, mais aussi de la vaccination en entreprise qui démarre cette semaine. Elisabeth Borne en studio sur Europe 1 à 8h15. Très bon réveil à tous.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Le journal de 8h. Bonjour Rémi Bossaron.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Pour commencer, je vous invite à tendre l'oreille et à écouter un document qui va marquer l'histoire. Ce que vous entendez, c'est une bourrasque de vent martien, le vent qui souffle sur Mars, capté pour la première fois grâce au rover Perseverance. C'est l'un des deux documents exceptionnels diffusés par la NASA ces dernières heures.
Et l'autre document, c'est le film de cet atterrissage de Perseverance jeudi dernier.
Une vidéo qui fait apparaître comme jamais le rouge de cette planète, ses cratères, ses dunes, jusqu'au moindre caillou martien, de quoi fasciner même les scientifiques les plus chevronnés comme l'astrophysicien Sylvestre Maurice, responsable de la contribution scientifique française dans cette mission.
Les images sont absolument superbes, déjà d'une qualité esthétique. Des centaines d'images plus belles les unes que les autres, décrivant les différentes étapes, en particulier l'ouverture du parachute qui est spectaculaire, qui est quelque chose de très très difficile. Un énorme parachute de plus de 20 mètres qui s'ouvre dans des conditions supersoniques. Et puis ensuite, un bouclier qui va tomber. On le voit tomber très loin, très stable en plus, étonnant. Et puis ensuite, une grue de l'espace, la fameuse Sky Crane qui se met en route. On la voit depuis le haut qui dépose le rover à la surface. Mais du rover, on voit cette Sky Crane qui le descend en douceur au bout de filin et puis ensuite qui va s'écraser plus loin. C'est un exploit technologique avec plein de petites caméras. Maintenant, les caméras sont devenues petites, on le sait. Ils en ont mis partout sur les différents véhicules. Et pourquoi c'est compliqué? Parce que d'habitude, il n'y a jamais deux véhicules qui se prennent en photo l'un l'autre. Or là, il y avait plein de véhicules qui s'emboîtaient les uns les autres, donc il y avait différents points de vue. C'est ça qui rend la vidéo, je trouve, très très spectaculaire. Et là, pour tout le monde, tous les gens qui ont vu cette vidéo, c'est de l'émotion. Moi, je vois des ingénieurs qui on les a regardés en boucle ce week-end, toutes ces images, les unes derrière les autres, en disant « mais c'est du jamais vu, quoi, jamais vu ». On le pilote tous les jours, et c'est difficile, mais c'est super.
L'émotion de l'astrophysicien Sylvestre Maurice, interrogé par Jean-Jacques Herry.
C'est un village impressionnant, ces images, allez les voir sur europe1.fr, j'insiste, et simplement se dire qu'on est allé sur Mars, enregistrer du vent, mais on est sur Mars quand
c'est
même,
l'histoire.
On comprend l'émotion de cet astrophysicien. C'est un village d'un peu plus de 300 habitants qui va recevoir ce matin la visite d'Emmanuel Macron.
Le président de la République se rend à Étaules, près de Dijon, pour visiter une exploitation agricole. Il faut y voir le symbole de son engagement aux côtés des producteurs qui négocient en ce moment avec la grande distribution, des négociations commercial très tendu cette année, malgré la loi sur l'alimentation promulguée en 2018. Bonjour Élise Dangean.
Bonjour Rémi, bonjour à tous.
Alors Élise, ce qu'on remarque dans ces négociations, c'est que tous les acteurs accusent les autres de les faire échouer, que ce soit la grande distribution, les fournisseurs ou les producteurs. Alors, je vous pose une question simple, qui ment dans cette histoire?
Eh bien, on peut déjà écarter les producteurs, puisqu'ils ne sont pas à la table des négociations en tant que tels. La question, c'est donc de savoir qui ment le plus entre la grande distribution qui achète et les industriels qui vendent. Bercy le dit sans détour, Auchan, Leclerc, Casino et les autres distributeurs appuient fort pour faire baisser les prix. Ça se répercute forcément sur toute la chaîne et donc sur les agriculteurs. Difficulté supplémentaire cette année, le Covid. Michel-Édouard Leclerc en est conscient.
La négociation cette année, elle est complexe parce que nous reconnaissons que beaucoup d'industriels rament, vraiment beaucoup, et c'est très difficile de négocier avec quelqu'un qui rame.
Ça ne l'empêche pas, lui, comme les autres ténors de la grande distribution, de demander beaucoup d'efforts aux industriels, une baisse des prix de l'ordre de 1,33% en moyenne, d'où ce climat tendu que décrit Luc Bayens, patron de l'eau cristalline.
Certaines enseignes sont très commerciales, où on vous propose de mettre des produits supplémentaires. Effectivement, on vous demande un effort. Mais avec d'autres enseignes, dont je ne vais pas prononcer le nom aujourd'hui parce que nous sommes toujours en négociation, c'est parfois la limite du racket.
Alors racket, le mot est fort, mais il illustre bien le niveau de tension actuel. Ce n'est pas une nouveauté. Ces négociations commerciales ont toujours été compliquées. David Garbousse les a menées pendant plusieurs années pour Le Sieur et Fleury Michon.
La première fois qu'on participe, on a peine à y croire, tellement c'est énorme. C'est une forme de jeu de rôle qui se met en place. Mettre la pression sur son interlocuteur, faire en sorte qu'il soit amené à prendre une décision rapidement. Toutes ces techniques-là, en fait, elles sont utilisées voilà, de manière très, très habile, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs.
Un bras de fer très regardé de très près par les agriculteurs. Patrick Bénézy, secrétaire général de la FNSEA, aimerait que les deux acteurs de ces négociations assument leurs responsabilités.
Les coûts de production ne sont pas respectés. La grande distribution ne les respecte pas, mais également les industriels. Les industriels ont une part de responsabilité, même si nous considérons effectivement que la distribution a la plus grosse part de responsabilité.
Les agriculteurs sont d'autant plus amers face aux résultats florissants de la grande distribution. Prenez Carrefour, le groupe a annoncé il y a quelques jours une hausse record de près de 8% de son chiffre d'affaires mondial. 78 milliards d'euros, sa meilleure performance depuis 20 ans.
Mais pour nous, consommateurs, Élise, qu'est-ce qu'il faut retenir ?
Eh bien, si l'on en croit les résultats des négociations déjà bouclées pour les PME de l'industrie agroalimentaire, les prix ne devraient pas trop bouger. Elles ont obtenu au mieux une hausse de 0,3%. Il y a des produits où ça coince un peu plus, notamment la charcuterie, une négociation qui devra, comme les autres, être bouclée avant dimanche minuit.
Merci Élise Dangeron du service économie d'Europe 1.
Il est 8h07, c'est aujourd'hui qu'entrent en vigueur les nouvelles restrictions face à l'épidémie dans les Alpes-Maritimes, avec notamment le port du masque partout dans l'espace public.
Mais ces nouvelles mesures et la situation sanitaire tendue ne doivent pas faire oublier que la campagne de vaccination se poursuit en France. Une nouvelle étape va même être franchie cette semaine avec les premières vaccination en entreprise. Alors on se tourne vers vous, Olivier Samin, bonjour.
Bonjour.
Olivier, ce sera un démarrage à toute petite vitesse pour cette vaccination. Elle ne concernera pas tous les salariés et elle devra garantir le respect de la confidentialité.
Oui, le coup d'envoi aura lieu jeudi et concernera les salariés de 50 à 64 ans inclus. Mais attention, pas tous les salariés de cette tranche d'âge, uniquement ceux qui sont vulnérables et qui à ce titre sont plus exposés aux formes sévères de la maladie. Dans les entreprises, c'est le médecin du travail qui va être mis à contribution. L'exercice, il le connaît puisque c'est lui qui, tous les ans, propose aux salariés le vaccin contre la grippe. Mais le protocole, cette fois-ci, sera différent. Pas question de faire cette vaccination dans une salle aménagée pour l'occasion près d'un endroit de passage. Ça conduirait à désigner les personnes vulnérables dans l'entreprise. L'injection devra donc se faire à l'abri des regards, soit dans le cabinet du médecin du travail, dans les entreprises où il existe, généralement les grands groupes, soit en ville, dans les locaux du centre de médecine du travail auquel l'entreprise est rattachée.
Mais alors Olivier, quel va être le rôle de l'employeur ?
L'employeur est invité à relayer l'information auprès de ses salariés, mais son rôle s'arrête là. Tout le reste relève du médecin du travail. C'est lui qui prendra individuellement contact avec les salariés pour leur proposer de les vacciner s'ils sont vulnérables et s'ils sont volontaires, bien entendu. Et c'est lui, dans la foulée, qui organisera les rendez-vous. La vaccination va démarrer à toute petite vitesse cette semaine. Chaque médecin du travail ne disposera que d'un seul flacon de 10 doses. À partir de début mars, ça montera progressivement en puissance, au même rythme que celui des médecins généralistes.
Merci Olivier Samin, spécialiste des questions sociales au service économie d'Europe 1.
Alors on savait déjà que les États-Unis étaient le pays le plus endeuillé au monde par la pandémie, mais cette fois c'est la barre symbolique des 500 000 victimes qui est dépassée.
Un bilan déchirant, c'est le mot employé par le président américain Joe Biden devant la Maison Blanche, alors que dans le même temps résonnaient dans la capitale fédérale ces cloches. Les cloches de la cathédrale de Washington qui ont sonné 500 fois en hommage donc aux 500 000 morts. Là aussi un document sonore qui pourrait marquer l'histoire.
Mais les États-Unis s'offrent aussi des motifs d'espoir.
À New York par exemple, avec la réouverture annoncée des salles de cinéma, un semblant de retour à la normale comme celui que peuvent espérer les Britanniques. Boris Johnson leur a présenté hier un plan de sortie du confinement avec un possible retour des interactions sociales au mois de juin.
Un appel à témoins est lancé pour disparition inquiétante dans le Val d'Oise.
Il s'agit d'une femme d'une quarantaine d'années disparue depuis dimanche alors qu'elle faisait son jogging sur les bords de l'Oise. Les gendarmes de la section de recherche de Versailles sont en charge de l'enquête. Vous prenez 15, vous divisez par 2 et vous obtenez l'équipe de France de rugby aujourd'hui. À peu près, ça va être compliqué sur le terrain. Elle a perdu la moitié de ses titulaires testés positifs au Covid-19.
Un cluster qui complique très sérieusement la tâche du sélectionneur Fabien Galthié avant la réception de l'Écosse dimanche. Un match qui est lui-même menacé, Axel May.
Composer une équipe capable de gagner, mais privée de la moitié de ses titulaires, sans savoir en plus si le match aura bien lieu, Fabien Galthié a de quoi s'arracher les cheveux. Même s'il est confiné dans sa chambre à Marcoussis, le sélectionneur est autorisé à se rendre sur une passerelle qui surplombe le terrain où s'entraînent depuis hier les joueurs retenus pour préparer la rencontre contre l'Écosse. Entraînement très particulier, puisqu'ils doivent, selon la terminologie de la Fédération française, effectuer des mouvements restreints, c'est-à-dire qu'on est bien loin des séances à haute intensité privilégiées par Fabien Galthié. Pour remplacer son capitaine Charles Olivon, positif au coronavirus, il va en principe choisir soit l'expérimenté Gaël Ficou, soit Baptiste Serin. Serin qui devrait former la charnière centrale avec Mathieu Jalibert. Bien entendu, tout va dépendre d'éventuels nouveaux cas positifs chez les Bleus et de la décision du comité d'organisation des Six Nations qui dira si le match est reporté ou pas. Décision attendue demain soir.
Suspense donc, on va continuer à suivre ça. Axel Mel, service des sports d'Europe 1.
Merci Rémi Bostaron, c'était le journal de 8h sur Europe 1. Il est 8h11.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Dans quelques toutes petites secondes, l'interview politique avec mon invité Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h14 sur Europe 1, mon invité Elisabeth Borne, la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Bonjour Elisabeth Borne.
Bonjour.
La vaccination en entreprise, ça commence, je parle sous votre contrôle, jeudi matin.
Ça commence vendredi, très précisément.
Très précisément.
Mais c'est une première étape dans laquelle les salariés vulnérables, très vulnérables, c'est-à-dire ceux qui ont des pathologies chroniques, par exemple des problèmes cardiovasculaires, respiratoires, des problèmes d'obésité, vont effectivement pouvoir être vaccinés par la médecine du travail.
Est-ce qu'on a déjà des chiffres ? Enfin, on sait combien d'entreprises, dans combien d'entreprises on pourra demander
Alors,
à être vacciné ?
C'est vraiment les services de santé au travail qui vont être mobilisés, parce qu'il y a un enjeu important de confidentialité. Comme ça s'adresse à des salariés vulnérables, il ne s'agit pas que l'employeur soit effectivement au courant des problèmes de santé que peut avoir le salarié. Donc, ce qu'on demande aux entreprises, c'est de prévenir les salariés que ceux qui sont très vulnérables pourront être vaccinés par la médecine du travail et les salariés pourront contacter directement la médecine du travail.
À quoi ça sert ? Puisque je peux appeler mon médecin généraliste déjà si je suis un salarié vulnérable.
Bah écoutez, je pense qu'on sait qu'en entreprise, on pratique déjà largement la vaccination contre la grippe. Les entreprises souhaitaient s'impliquer, notamment pour sensibiliser les salariés à l'importance de la vaccination. C'est ce qu'on rend possible à partir de la fin de la semaine. C'est vraiment une première étape, puis ça va monter en puissance. Évidemment, quand...
Oui, vous demandez en fait aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise aussi, quelque part, de relayer cet appel à la vaccination.
Absolument, de relayer cet appel à la vaccination. Je pense qu'ils sont, enfin je suis sûr qu'ils sont, ils sont prêts à le faire, les organisations syndicales aussi. Et donc c'est une autre façon de pouvoir se faire vacciner. Mais je vous dis, là c'est une première étape. Quand on permettra de, enfin, quand on donnera accès au vaccin à tous les adultes, alors les entreprises pourront vraiment monter en puissance et faire ce qu'elles font avec la vaccination contre
oui,
la grippe.
Et puis première étape, parce que pour démarrer, là, les médecins auront, je crois, une dizaine de doses seulement.
En fait, ça démarre avec quelques doses par médecin et puis ensuite on va monter en puissance. C'est le vaccin, vous savez, AstraZeneca qui n'est pas, en tout cas aujourd'hui, recommandé pour les plus de 65 ans, donc qui va pouvoir concerner les salariés avec ces pathologies chroniques de 50 à 64 ans.
Vous réitérez également votre appel au télétravail généralisé. Enfin, vous réitérez, Elisabeth Borne, est-ce que vous êtes entendue sur ce point-là ? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, parce qu'on a beaucoup de chiffres sur le télétravail, mais est-ce qu'on est capable d'observer son impact sur les données épidémiologiques ?
Alors, on a des chiffres précis, on a des études qui ont été faites qui montrent que quand on est en télétravail, on réduit de 20 à 30% le risque de contamination. Donc, c'est vraiment important à un moment où on voit bien que les chiffres sur l'épidémie ne sont pas bons, de se remobiliser pour le télétravail. C'est ce qu'on a demandé. On a eu une érosion depuis novembre sur le télétravail. Là, on a réussi à arrêter cette érosion, on a une légère augmentation, il reste des marges de manœuvre. Donc moi, je le dis vraiment aux entreprises, aux salariés, on souhaite tous éviter des mesures plus restrictives, un confinement, et le télétravail est une bonne réponse.
Oui, parce que l'idée, et là aussi je parle sous votre contrôle, ça a été de maintenir autant que possible les écoles et le cadre du travail quand c'est nécessaire. Ce que j'entends aussi dans ce que vous dites, c'est que le scénario d'un confinement du travail, à la façon du printemps 2020, est toujours sur la table.
Bah, écoutez, on prend les mesures appropriées en fonction de l'évolution de l'épidémie. Ces derniers jours, les chiffres ne sont pas bons. On voit qu'on a à nouveau une augmentation du nombre de cas positifs, qu'on a une forte pression sur nos hôpitaux. Donc il faut qu'on fasse tous le maximum pour ralentir la propagation du virus. Et moi, je réunirai vendredi prochain à nouveau, vous savez, les secteurs dans lesquels l'érosion avait été le plus marquée, notamment la banque, l'assurance, l'ingénierie, le conseil, pour faire le point sur ce qu'ils ont pu faire depuis que nous nous sommes rencontrés. On sait que les situations sont assez contrastées. Hein. Par exemple, dans le secteur bancaire, il y a des banques qui jouent très bien le jeu, il y en a qui le jouent moins, et elles font l'objet de contrôles par les services de l'inspection du travail, et on pourra leur dire vendredi si c'est en train de s'arranger ou pas.
Oui, il y a des bons élèves, des moins bons élèves dans chaque secteur.
Je vous confirme qu'il y a des bons et des moins bons. Et
vous ne donnez pas de nom encore ?
Bah, pas encore.
Pas de name and shame ce matin dans le secteur bancaire. Il y a d'autres secteurs en particulier qui attirent votre attention ?
Enfin, c'est vraiment des secteurs,
où on peut télétravailler,
la banque et l'assurance, c'est des secteurs où on peut télétravailler, où ça avait été fait largement au mois de novembre, où on voit que certaines ont continué et d'autres pas. Celles qui n'ont pas continué sont contactées par l'inspection du travail qui va faire des inspections encore en cette fin de semaine et on fera le point en fin de semaine.
Et quel type de sanction est-ce qu'il faut attendre ?
Vous savez, il y a des mises en demeure. Dans 90% des cas, quand on a une mise en demeure, l'entreprise se remet sur des bons rails. Et puis, parfois, on est obligé de passer par des sanctions plus fortes. Ça peut aller jusqu'à des référés judiciaires. Je crois que chacun peut être responsable. Moi, je suis consciente que tout le monde commence à trouver que ça fait longtemps, ce télétravail. Mais là, on a vraiment un enjeu d'éviter un nouveau confinement. Donc, chacun doit jouer le jeu au maximum.
Le quoi qu'il en coûte, combien de temps, Elisabeth Borne ? C'est presque la question obligatoire. Le chômage partiel et les aides qui vont avec, sont-ils garantis tant que le virus ne sera pas vaincu ?
Moi, je le dis très clairement, tant qu'il y aura des restrictions sanitaires, des établissements, des entreprises qui sont fermées totalement, voire partiellement, alors on continuera à maintenir une prise en charge à 100% de l'activité partielle pour ces entreprises. Donc ça veut dire que l'État continue à assurer la rémunération des salariés quand ils ne peuvent pas travailler. On l'a fait jusqu'à près de 9 millions de salariés au printemps, encore plus de 3 millions pendant le confinement de novembre.
Aujourd'hui, ils sont combien soutenus par le chômage partiel ?
De l'ordre de 2 millions de salariés qui sont encore soutenus par le chômage partiel dans ces secteurs précisément qui ne peuvent pas travailler. C'est très important hein, parce que vous savez, ça a permis de contenir assez largement l'augmentation du chômage. On n'a pas du tout eu les chiffres qu'on avait eus dans la crise de 2008-2009, où on avait eu une augmentation de 25% du chômage. Là, on est autour de 8%. Et évidemment, comme la crise continue, on va continuer à accompagner des entreprises, notamment avec l'activité partielle.
Et combien d'entreprises font encore appel aujourd'hui à l'activité partielle ?
Alors, il y en a beaucoup, puisqu'on a près de 2 millions de salariés qui sont en activité partielle. La bonne formule quand on a une activité qui baisse durablement, c'est l'activité partielle de longue durée. Vous savez, c'est des accords au sein des entreprises pour partager l'activité entre tous les salariés et l'État prend en charge la partie qui n'est pas travaillée et ça permet aussi de se former. L'objectif, c'est vraiment de ne pas faire ce qu'on avait pu faire en 2008-2009 où des entreprises avaient licencié les salariés, ce qui est tout d'abord traumatisant pour le salarié et puis qui, au moment où l'activité économique repart, on se rend compte qu'on n'a plus les compétences dont on a besoin. Donc il faut garder les salariés, les former pour que l'entreprise soit plus forte en sortie de crise.
Olivier Dussopt, le ministre des Comptes publics, estime que le niveau des dépenses publiques n'est pas soutenable dans le temps. Et vous me dites que tant qu'il y aura l'épidémie, tant qu'il y aura le virus, le quoi qu'il en coûte, le chômage partiel sera maintenu.
Je dis que, évidemment, tant qu'il faut protéger les emplois, on le fera. C'est ce qu'on a fait jusqu'à présent et qu'on va continuer à faire tant qu'il y aura des restrictions sanitaires.
Autre point, Elisabeth Borne, sur lequel votre parole est attendue, la réforme de l'assurance chômage. Alors, petit rappel succinct autant que possible, les partenaires sociaux en désaccord, le gouvernement qui tranche, personne n'est content, la crise reporte son application. Cette réforme, elle est remise sur la table, est-ce que vous y croyez ? Est-ce qu'il y a l'espace politique là, dans le débat pour remettre la réforme de l'assurance chômage sur la table ?
Écoutez, moi je pense que cette réforme de l'assurance chômage, elle est nécessaire avec deux objectifs. D'abord, lutter contre la précarité, notamment le recours excessif aux contrats courts. C'est le système de bonus-malus qu'on propose pour les entreprises. Un malus quand elles font plus appel que les autres à des contrats courts. Et puis, c'est aussi un enjeu d'équité. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous travaillez à mi-temps tous les jours ou un jour sur deux à temps plein, in fine, vous avez travaillé le même nombre d'heures et vous n'avez pas du tout la même allocation chômage. Donc, il faut aller au bout de cette réforme. On a eu beaucoup de discussions avec les organisations patronales et syndicales. Moi, je suis
que,
aussi
que vous vouliez aller au bout, c'est une chose, mais au-delà du fond même de la réforme, on parle d'assurance chômage, j'aurais pu vous parler de la réforme des retraites, il n'y a pas un petit côté méthode Coué? Comment est-ce qu'on peut imaginer là, le 23 février, qu'on va passer ces réformes avant la présidentielle?
Bah écoutez, moi je réunis les organisations patronales et syndicales la semaine prochaine,
qui vous disent qu'ils n'en veulent pas.
Et on pourra faire le point sur tous les échanges qu'on a eus.
Mais je peux déjà vous dire, ils vous disent qu'ils n'en veulent pas.
J'ai bien compris. Moi, je pense qu'il faut tenir compte du contexte de la situation du marché du travail. C'est ce qu'on a proposé. On est prêt à adapter le calendrier. On est prêt aussi à adapter les règles en tenant compte de la situation du marché du travail. Et c'est ce que je présenterai mardi prochain aux organisations patronales et syndicales.
Vous avez une botte secrète, un argument qui va les faire plier ?
Vraiment, je pense que les organisations patronales et syndicales pourront constater qu'on a écouté, qu'on a pris en compte des remarques, qu'effectivement tout le monde n'est pas forcément d'accord à la fin, effectivement c'est le gouvernement qui tranche, mais qu'on a vraiment adapté cette réforme et qu'on est prêt à l'adapter pour tenir compte de la conjoncture, de la situation du marché du travail.
Nous avons parlé des aides, parlons des jeunes plus spécifiquement. Hier matin, sur Europe 1, à votre place, le grand patron Louis Gallois vous appelait à changer d'avis sur le RSA des 18-25 ans. C'est la position du gouvernement qui est contre l'idée que les jeunes commencent dans la vie active par des aides sociales. Avis que partage Louis Gallois dans un premier temps, écoutez-le.
J'ai changé d'avis parce que la situation des jeunes s'est dégradée. Quand vous n'avez aucune ressource, vous ne pouvez pas chercher de travail. Je pense qu'il faut leur donner les ressources qui leur permettent de s'engager dans une véritable recherche d'activité. Et pour cela, je pense que le RSA, c'est le minimum qu'on puisse leur accorder.
Est-ce que votre position n'est pas simplement dogmatique, Elisabeth Borne?
Non, mais pas du tout. Qu'il faille aider financièrement les jeunes qui ne s'en sortent pas, évidemment, c'est... Voilà, il n'y a pas de doute là-dessus et c'est bien ce qu'on fait.
Mais il y a un tabou.
Par contre,
cette question du RSA chez les moins de 25 ans.
Un certain nombre de groupes politiques veulent le RSA pour les jeunes. Moi, je dis qu'on doit plus que ça aux jeunes. On leur doit d'abord un accompagnement vers l'emploi. C'est ce qu'on fait, par exemple, avec la garantie jeune. Vous savez, c'est un dispositif qui marche très bien, dans lequel le jeune est accompagné. Il y a des ateliers collectifs. Il y a du coaching, il y a de l'immersion en entreprise et il y a une allocation de près de 500 euros par mois. On a doublé le nombre de places en garantie jeune. On est passé de 100 000 à 200 000 cette année. On a systématisé ce principe d'une aide financière quand on a un accompagnement vers l'emploi. Et c'est ça qu'on veut, c'est répondre à la situation des jeunes, là, dans l'immédiat, avec une aide financière. Mais c'est surtout les accompagner vers un emploi durable. Et c'est ce qu'on appelle la garantie jeune universelle. Moi, je suis convaincue que c'est la bonne réponse. Les jeunes, ils ne veulent pas juste une allocation. Ils veulent gagner leur autonomie dans la durée, en arrivant sur un emploi.
Et cette question du RSA ne reviendra pas sur la table, pas de changement d'avis.
Mais écoutez, moi je pense qu'avec la garantie jeune universelle, ce qu'on propose c'est mieux, je vous dis, c'est répondre immédiatement aux difficultés financières, mais c'est accompagner les jeunes pour qu'ils trouvent un emploi. Et moi je suis convaincu, vous savez que les jeunes, on en a un certain nombre qui sont sortis du système scolaire, du système éducatif, qui n'ont pas de projet professionnel. Ce qu'on doit faire, c'est les aider à bâtir un projet professionnel et à le mettre en œuvre. Et c'est bien ça qu'on veut faire pour chaque jeune.
Un dernier mot, les jeunes toujours, la question de l'apprentissage. On s'est réjoui des bons chiffres 2020, 500 000 jeunes, plus 40% en un an. Enfin des bons chiffres sur l'apprentissage. Et là, 6 mois après la rentrée, on a le problème de ceux qui n'ont pas de contrat en entreprise. Ils sont 30 000 au 15 février. Est-ce que c'est lié au Covid? Est-ce qu'on les a envoyés au casse-pipe?
Non, écoutez, moi, je suis évidemment attentive à la situation de ces quelques milliers de jeunes. Vous l'avez dit, on a plus de 500 000 jeunes qui ont un contrat d'apprentissage. Quelques milliers qui n'en ont pas, on va les accompagner individuellement pour que là aussi, chacun puisse avoir une réponse. Les préfets, les recteurs, les entreprises sont mobilisées et je n'ai pas de doute qu'on va trouver une solution.
On vous réinvitera pour reparler de la solution de ces 30 000 jeunes. Merci Elisabeth Borne.
Merci.
Merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions ce matin, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, en direct sur Europe 1. Il est 8h27.
Europe 1, Mathieu Béliard.
À suivre, un nouveau point sur l'info et la météo de Laurent Cabrol. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Il est presque 8h30, un nouveau point sur l'info sur Europe 1 avec Théo Manval.
Vous le savez, Europe 1 s'engage pour la jeunesse. On vous révèle ce matin le contenu des 10 000 offres de stage et d'apprentissage lancées par le ministère de l'Intérieur. Le nombre avait été annoncé il y a un mois. Dans le détail, Justin Morin, ce sont des offres surtout à destination des jeunes issus des quartiers dits de reconquête républicaine.
Oui, l'idée, c'est de proposer des stages et des contrats d'apprentissage dans tous les métiers qui composent le ministère de l'Intérieur. C'est très large. Ça va du garagiste qui s'occupe des voitures, de la police ou des pompiers, au service communication d'une préfecture, en passant par la restauration des établissements du ministère ou même les services juridiques. Les offres existeront dès 16 ans, 1800 stages de 3e d'une durée d'une semaine. Et puis pour ceux qui veulent découvrir la gendarmerie, de 16 à 18 ans donc, 1200 places seront ouvertes pour intégrer les cadets de la gendarmerie en septembre, avec un soutien scolaire possible en plus. Toujours dans la catégorie stage, 4000 offres seront proposées à destination des lycéens et des étudiants jusqu'à 25 ans. 1500 jeunes supplémentaires pourront aussi faire leur service civique, une mission qui peut aller jusqu'à un an. Enfin, le ministère de l'Intérieur veut doubler son nombre d'apprentis en ouvrant 1500 places, là aussi dans tous les domaines. Il sera possible de postuler dès ce soir sur le site du ministère ou des préfectures départementales. Une démarche gagnant-gagnant pour un ministère qui veut déclencher des vocations et apaiser le climat parfois tendu entre la police et la jeunesse.
Justin Morin du service police-justice d'Europe 1 et notre page Europe 1 solidaire toujours en ligne sur europe1.fr. Vous y retrouvez plus de 25 000 offres d'emploi pour les jeunes, stages, CDD et CDI. Emmanuel Macron auprès des agriculteurs aujourd'hui, déplacement sur une exploitation en Côte d'Or pour parler prise agricole à une semaine de la fin des négociations tendues avec les industriels et la grande distribution. Le chef de l'État entend rappeler à l'ordre les grands noms du secteur pour une meilleure rémunération des producteurs. Concernant le projet de loi climat, le gouvernement se fait lui taper sur les doigts par le Haut Conseil pour le climat. Les mesures proposées ont une portée trop réduite, trop de conditions pour être vraiment efficaces. Il faut rectifier le tir, estime ce matin dans son avis l'organisme d'évaluation indépendant. Il compte désormais sur le Parlement pour amender le texte et le rendre plus ambitieux. Sur le front sanitaire, le seuil des 3400 patients en réanimation est à nouveau franchi pour la première fois en France depuis début décembre. Et des voix s'élèvent pour des mesures renforcées à Dunkerque. Taux d'incidence de 901 cas de Covid pour 100 000 habitants, c'est encore plus élevé que dans les Alpes-Maritimes. Les Alpes-Maritimes où les restrictions renforcées entrent en vigueur ce matin, notamment dans les commerces, Frédéric Michel.
Dès ce matin, dans les Alpes-Maritimes, on devrait revoir des files d'attente devant divers magasins et à l'entrée des supermarchés. Les commerces de plus de 400 mètres carrés voient leur jauge portée de 10 à 15 mètres carrés par visiteur. Les contrôles, insiste la préfecture, seront nombreux et fréquents. Des contrôles en semaine, mais aussi durant les deux prochains week-ends de confinement. Seuls les commerces alimentaires et les pharmacies auront l'autorisation d'ouvrir. Pour les autres, il faudra baisser le rideau le vendredi à 18h. Laurent est barbier à Cannes.
Je sais que c'est pas facile de trouver une solution adéquate. Hein. On aurait confiné totalement, on aurait hurlé de la même façon. C'est l'intérêt global, mais le samedi en ce moment est une journée particulièrement importante. Déjà, on avait été impacté par le couvre-feu à 18h, ce qui correspond à 3 clients de moins par jour.
Michel vend des robes et costumes de mariée à Cannes. En un an, son chiffre d'affaires s'est effondré.
Nous, on a besoin de travailler. Et est-ce que tout ça sert vraiment à quelque chose dans la mesure où on a tout stoppé et on est encore avec ce virus qui court de plus en plus vite? Ça me fait sourire, mais j'ai envie de pleurer en fait.
Et les commerces concernés par les fermetures pourront bénéficier des aides de l'État. C'est la promesse du préfet.
Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans les Alpes-Maritimes. Dans les entreprises, la vaccination commencera après-demain pour les salariés de 50 à 64 ans les plus vulnérables. Par ailleurs, 2 millions de personnes sont toujours accompagnées par le dispositif de chômage partiel en France. C'est ce que vient d'indiquer sur Europe 1 la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Aux États-Unis, drapeaux en berne. Aujourd'hui, le seuil des 500 000 morts du Covid a été franchi. C'est plus en un an que le nombre d'Américains tombés dans les deux guerres mondiales et celle du Vietnam réunis. Mais malgré cela, les courbes sont à la outre-Atlantique et les salles de cinéma vont pouvoir rouvrir à New York dans 10 jours, soit quasiment un an jour pour jour après leur fermeture. Elles ne pourront accueillir qu'un quart de leurs spectateurs. Retour en France et deuxième jour de l'Assemblée exceptionnelle des évêques aujourd'hui sur la question des crimes pédophiles dans l'Église. Avec cette question, quelle réparation, quelle indemnisation possible pour les victimes? Elle est quasi inexistante aujourd'hui, ce qui questionne la volonté réelle de l'institution d'avancer à ce sujet pour Pierre-Emmanuel Germain-Tille, victime dans sa jeunesse des abus du père Prénat.
Je pense que tout est mis en place aujourd'hui pour que la parole se libère. Il n'en tient qu'aux personnes et aux gens de franchir cette barrière sociale, cette angoisse de voir libérer cette parole pour pouvoir avancer dans sa vie. Je pense que tous les éléments sont réunis aujourd'hui. Par contre, je suis un peu pessimiste quant à l'évolution et au fait du traitement de toute cette pédophilie et du fait que ça puisse un jour être éradiqué. Enfin, c'est toujours difficile d'éradiquer un problème, mais là, j'ai vraiment l'impression que les choses sont toujours au ralenti. Et ça, c'est aussi bien au niveau du gouvernement qu'au niveau de l'Église. Je trouve qu'on prend trop de temps et qu'au final, on n'avance jamais. Donc, je suis un peu pessimiste par rapport à ça. J'espère me tromper et j'espère que les choses changeront. Honnêtement, j'en appelle au devoir citoyen de chacun et j'en appelle à toutes les victimes, hommes, femmes, de quelque situation qu'ils soient, de quelque milieu social qu'ils soient. Il faut libérer votre parole. Il y a comme ça qu'on avance et c'est valable pour tous les sujets dans la vie.
L'appel à continuer de témoigner. Pierre-Emmanuel Germainty, victime du père Prénat, condamné l'an passé pour pédophilie à Lyon. Il était l'invité de Sébastien Krebs à 5h40. Cette amende colossale pour Cdiscount, le géant français du e-commerce, doit payer près d'1 million d'euros pour manquement à l'information de ses consommateurs dans le cadre de l'une de ses offres d'abonnement en ligne. Hommage toujours nombreux au duo français Daft Punk après l'annonce de sa séparation hier soir après 28 ans de carrière. Ils ont toujours cultivé le goût du paradoxe et quand le monde entier garde son masque, eux l'enlèvent. Salut une autre figure de la musique électro, Jean-Michel Jarre. Et puis c'est la toute première fois qu'on entend du son venu de la planète Mars. La NASA a diffusé cette nuit un premier enregistrement du vent martien, vous l'entendez, capté par le rover Perseverance. Vidéo aussi en couleur de son atterrissage sur la planète rouge jeudi dernier. Les images sont à retrouver sur europe1.fr.
C'est impressionnant quand même.
Ça vous a coupé la chic.
Mars. Non mais écoutez Mars. Ouais.
Écoutez le vent de Mars.
Et puis on va arrêter de dire atterrissage, non, c'est amarcissage.
J'ai hésité à dire amarcissage, mais figurez-vous que je me suis renseigné auprès de notre spécialiste Lord Autriche. Comme on atterrit sur la Terre, pas la planète, mais la surface, on a le droit de dire atterrissage même sur Mars.
Donc il y a de la Terre sur Mars.
Exactement.
Attendez. On va philosopher ce matin. Merci beaucoup Théo Manval. Il est 8h36 sur Europe 1. Laurent Cabrol, il y a de la Terre sur Mars.
Bah oui, il y a de la terre, mais il y a du vent aussi chez nous, mais malheureusement, enfin, celui-là, on peut l'entendre, il est tout près de nous, hein. Les vents marins sur les Pyrénées-Orientales, l'Aude et l'Hérault, vous êtes servis avec des vents à 80 km/h, je ne sais pas à quelle vitesse est celui de Mars, mais celui-là, il est à 80-90. Sur le Midi-Pyrénées, du soleil, sauf sur les départements qui se situent près de la pluie, c'est-à-dire le Tarn, grosso modo, où il pleut pas mal, et il pleuvra un petit peu moins aujourd'hui. Et puis sur le Dijonais, le Mâconnais, la Franche-Comté, la région Rhône-Alpes, la région lyonnaise, la région PACA. Là, nous sommes dans un secteur où vraiment il fera beau. La Lorraine et l'Alsace aussi, il fera beau. Et des contrées où là, disons, on dira que le soleil a un petit peu de mal à percer. La région parisienne notamment, c'est dans l'après-midi. Le Morvan, l'Auvergne. Enfin, des éclaircies en vue, si vous êtes patient, sur la Normandie, le Poitou-Charente, l'Aquitaine. Les températures sont très douces, entre 14 et 19 degrés dans la journée. N'oubliez pas que demain sera très beau. Jeudi, moyennement beau. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, très très beau, avec toujours de la douceur au programme.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h37 sur Europe 1. Bonjour Jimmy Mohamed.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Allez, on se remet au sport. Je sais que vous essayez de me faire transpirer un peu, de me faire faire un peu de sport. Vous savez quoi ? C'est un peu vieillot quand même le générique de Gym Tonic. Ce matin, on a une autre ambiance. On peut quand même faire du sport sur du Daft Punk. Notre santé avec Jimmy Mohamed tous les matins. Mon cher Jimmy, vous voulez nous remettre au sport et j'ai perdu mes fiches pour tout vous dire. C'est peut-être un acte manqué. Vous voulez nous parler des bienfaits de l'activité physique ce matin ?
Exactement, car c'est vrai que lorsqu'on parle de se remettre au sport, on pense forcément devoir faire un jogging pendant une heure, plusieurs fois par semaine. Et justement, j'ai pensé aux personnes comme vous, Mathieu, qui sont totalement réfractaires au sport. Alors la première chose que vous pouvez faire, si vous ne voulez pas vous mettre au sport, eh bien c'est de marcher. Ça paraît tout bête, mais avec le télétravail, le couvre-feu, l'augmentation du temps passé sur les écrans, eh bien nous sommes devenus de plus en plus sédentaires. L'objectif est simple, c'est de faire 10 000 pas par jour. C'est ce que l'OMS recommande. Vous avez des petits trackers sur votre téléphone portable qui vont vous dire combien de pas vous faites. Mais pourquoi ce chiffre de 10 000? Eh bien, les études montrent que si vous marchez déjà 8 000 pas par jour versus 4 000, eh bien, vous avez deux fois moins de risque de mourir de n'importe quelle cause et en particulier de cause cardiovasculaire. Donc, le premier des sports, eh bien, c'est déjà de marcher.
Marcher, bah ça je peux. Ça je veux bien, Jimmy. Alors, si on décide de s'y mettre pour de bon cette fois, au bout de combien de temps est-ce qu'on peut espérer un impact positif sur notre santé?
Eh bien là encore Mathieu, j'ai pensé à vous, on a besoin de simplement 12 minutes pour commencer à avoir un impact sur votre santé. Alors c'est une étude assez incroyable, on s'est intéressé à des sujets d'âge moyen, 40-50 ans, à qui on a demandé de faire une activité physique un peu soutenue. Ils faisaient du vélo, ils devaient un peu transpirer, donc quitte à faire du sport pendant 12 minutes, autant y aller de bon cœur. On leur a fait des prises de sang et ce qui est incroyable c'est qu'on a dosé plus de 600 paramètres qui vont être impliqués dans différentes maladies. Eh bien la quasi-totalité des marqueurs prédictifs du diabète, de l'inflammation des vaisseaux et donc d'infarctus et de maladies cardiovasculaires ont diminué au bout de 12 minutes d'activité sportive. Ça veut dire que vous pouvez faire une activité sportive qui vous plaît, pas forcément de la course, ça peut être du vélo, ça peut être du stretching, ça peut être peu importe, tant que vous transpirez et que 12 minutes sont largement suffisantes. Alors voilà, vous avez de nouveau Une preuve que le sport est bon pour votre cœur et que c'est surtout à la portée de tous, Mathieu.
Ouais, même 12 minutes, il faut quand même qu'on arrive tous à trouver 12 minutes dans la journée pour faire un peu d'activité physique. Je vous rejoins complètement, toute blague à part, Jimmy, évidemment. Dans son rendez-vous tout à l'heure, on va parler des troubles bipolaires, c'est ça ?
Oui, une maladie qui est sous-diagnostiquée. De nombreuses années vont s'écouler entre le début des symptômes et le diagnostic. Vous allez voir, c'est passionnant.
Entre 15h et 16h avec vous, Jimmy et Mélanie Gomez, c'est Sans Rendez-vous, l'émission Santé d'Europe 1. Merci Jimmy, il est 8h40. Notre planète avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors Fanny, vous nous dites ce matin que les friches de nos villes seraient des pépites dans lesquelles il faut investir.
Oui, je vous dis ce matin, investir à fond dans les friches, c'est une bonne idée et c'est ce sur quoi travaille l'ADEME, vous savez l'agence de la transition écologique, grâce à un outil qu'elle a appelé Bénéfriche, contraction de bénéfice et de friche, ouais, qui vise à identifier les... Bon, je vous explique quand même.
Hein. Allez-y.
L'objectif, c'est identifier qu'il y a des bénéfices multiples à reconvertir ces lieux délaissés au sein même des agglomérations. On a tous autour de chez nous des exemples de bâtiments désaffectés ou de terrains vagues qui ont tout l'air de squats, des endroits où l'on se dit que finalement ça craint. Mais en réalité, cette constellation de friches au sein de nos villes pourrait demain avoir bien plus de valeur qu'aujourd'hui.
Alors comment est-ce qu'on peut estimer la valeur d'une friche ?
Bénéfriche utilise une série d'indicateurs qui permettent concrètement de quantifier les effets économiques, écologiques et sociaux directs qu'entraînerait la reconversion d'un lieu désaffecté. C'est un foncier disponible qui est souvent négligé et c'est une opportunité pour les collectivités et les acteurs de l'aménagement pour amener la ville vers plus d'efficience et vers l'objectif, surtout zéro artificialisation. La ville de demain devra optimiser l'espace qu'elle possède déjà plutôt que d'artificialiser sa périphérie. Ces villes qui enflent et qui ne cessent de grignoter du terrain en bordure, ce que l'on appelle communément l'étalement urbain. L'option la plus sensée, raisonnable et même rentable pour bâtir sur le long terme, je vous le dis, c'est la friche.
L'étalement urbain, quelle jolie façon de dire la bétonisation de la campagne. L'étalement urbain. Les freins de la reconversion de ces lieux, souvent insalubres, c'est quand même souvent le coût.
Mais oui, les coûts de la démolition, de la dépollution, du désamiantage sont parfois exorbitants. Et sur une échelle de temps à court terme, bâtir du neuf sur un terrain vierge quitte à raser au passage une forêt, au premier abord, c'est une opération plus rentable, en tout cas moins dispendieuse. Mais pour l'ADEME, l'approche économique ne doit pas être la seule à guider des projets de construction. L'artificialisation des parcelles agricoles ou forestières autour des villes entraîne une perte d'argent plus importante. Ce que dit l'ADEME, c'est que les services écosystémiques de filtration de l'eau, de l'air, de stockage de carbone par exemple, qui ne seront plus rendus par la nature, se chiffrent aussi et doivent être compris dans la balance. Chaque année en France, ce sont des milliers d'hectares qui sont artificialisés. Pour vous donner une idée, rapportée à la carte de France, en 10 ans, c'est comme si toute la superficie de la Corrèze était coulée sous le béton. Alors l'enjeu aujourd'hui, c'est de bâtir la ville sur la ville, sans jamais avoir besoin de l'agrandir.
Et de laisser la Corrèze tranquille. Merci Fanny Agostini, notre planète tous les matins sur Europe 1. Il est 8h43. Et à suivre bien sûr Nicolas Canteloup, Julie qui s'est installée. C'est la revue de presse, à tout de suite.
Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h45, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et on vous retrouve Mathieu pour le principal titre de l'actualité.
Oui, bonjour ma chère Julie, bienvenue sur Europe 1. Europe 1, si vous venez de nous rejoindre, bien sachez que l'info du jour, c'est Emmanuel Macron qui est aujourd'hui en Bourgogne. Oui, en Bourgogne, dans une ferme pour soutenir les agriculteurs en colère contre la grande distribution. Et oui, vous l'avez compris, un jour il parle à des youtubeurs et un autre il parle avec des gens qui n'ont même pas le wifi chez eux, faut être réaliste. Franchement, quel caméléon ce président de la République. Allez, l'autre info musicale, bien sûr, nous avons parlé, reparlé, c'est les Daft Punk qui bien se sont sûr. Séparés hier. Et oui, après 30 ans de carrière. Et oui, on apprécie. Et puis, coup dur de plus, les Kids United, eux, restent ensemble.
On a dû l'avoir dans la tête toute la journée.
Ça va être long, Julie. Ça va être long, oh surtout s'ils restent 30 ans ensemble. C'est un double coup de massue pour la culture. Et là, on dit encore bravo, Roselyne Bachelot. Franchement.
Allez.
Et la France est encore plus. Vous voulez la prolongation? Bon, alors pour Mathieu Béliard.
Je sens que Mathieu, il est plus qui tue United que d'Apoc.
C'est pas de ma faute.
Allez, on parle de la France maintenant qui est encore plus en retard sur la seconde dose de vaccin, avec seulement 0,10% de la population qui a reçu les deux doses. La France se classe dernière d'Europe. Jean-Michel Apathy, bonjour. Votre analyse.
Mon analyse, bonjour à tous. Bonjour à mon collègue rouleur de R, Mathieu Béliard. Vous voulez mon analyse, Julie Leclerc?
Bien sûr.
Elle est très simple, mon analyse. On est nul. Et vous savez pourquoi qu'on est nul?
Non, mais vous allez nous le dire.
Ils sont de quelle origine, les vaccins?
Américains pour Moderna et Pfizer, et anglais pour AstraZeneca.
Et voilà. La France passe son temps, souvenez-vous, à donner des leçons aux autres pays. Oui, les Anglais, vous êtes des nazes avec votre Brexit, vous n'y arriverez pas sans nous. Ou la honte, les Américains, avec votre Trump, vous êtes des cons. Make the planet great again, bande de pollueurs. On passe notre temps à les critiquer.
Ah bah oui, mais c'est sûr qu'ils ne vont pas être pressés de nous aider, là.
C'est sûr. C'est comme, je vais vous donner un exemple, c'est comme engueuler ses voisines tous les jours, et puis un soir, on est en panne. Et on sonne pour demander du sel. Eh bien, vous savez, vous allez vous le coller, votre sel. Eh bien, les vaccins, c'est pareil. On ne les aura jamais. Et vous savez quoi qu'ils vont faire? Ils vont s'amuser à faire passer le Burundi ou peut-être même le Kazakhstan avant nous. Oula. Et en France, je vous le dis, on n'aura rien. Il n'y aura pas un vaccin.
Merci Jean-Michel Apathy. Les Alpes-Maritimes connaissent donc de nouvelles restrictions. Les villes du littoral sont confinées les week-ends. Éric Ciotti, vous êtes député des Alpes-Maritimes. Bonjour.
Oui, bonjour Madame Julie. Bonjour à toute votre belle rédaction. Écoutez, tout d'abord, félicitations à ce gros débile de restaurateur niçois. Souvenez-vous qui avait rouvert son établissement le mois dernier. C'est le chauve conspirationniste qui crachait dans ses gnocchis en criant « Vive la liberté !» Eh bien, on peut le dire aujourd'hui. Bien joué, espèce d'imbécile.
Ouais, mais enfin, c'est pas entièrement de sa faute.
Vous avez raison. Il faut que je reste modéré et pondéré. L'État préoccupant de la ville de Nice nécessitait des mesures fortes. Et personnellement, je serais allé plus loin en retirant son mandat de maire de Nice à cet incapable Christian Estrosi.
Ah bah tiens, monsieur Ciotti, vous ne pouvez pas laisser tomber votre querelle avec Christian Estrosi, non, franchement.
C'est pas une question de querelle, mais excusez-moi, Julie, ouvrez les yeux. Même à Paris, on ne reconfine pas. Alors que la population est plus dense à Paris. Et en plus, la mer, c'est Anne Hidalgo. C'est vous dire le niveau de Christian Estrosi.
D'après Christian Estrosi, justement, les responsables de cette flambée épidémique, ce sont les touristes.
Les touristes. Il faut dire que Nice est une ville magnifique. Nous sommes victimes de notre succès dans les Alpes-Maritimes. C'est sûr que dans les villes moches, on n'est pas obligé de reconfiner.
Que
ce soit à Corbeil-Essonne, à Roubaix, à Évry, à Brest, à Mazamé. C'est sûr qu'on est à l'abri. J'essaye de n'oublier aucune ville moche. Ni Sochaux, d'ailleurs.
Oui, bon.
Besançon, ni Maubeuge, Saint-Raphaël. Vous allez me dire pourquoi Saint-Raphaël? Les phrases que je vous dis sont écrites par un jeune homme, un auteur, qui s'appelle Philippe Cavrivière, qui habite Saint-Raphaël. Ça lui fera plaisir.
Oui, la ville moche, d'accord. Bon, écoutez, on a compris.
Dans l'heure aussi, toute l'heure, monsieur.
Monsieur Béliard. Bon, Saint-Étienne, non, il n'y a rien pour Saint-Étienne.
Saint-Étienne, bien sûr, Saint-Étienne.
Le chaudron,
oulala, le chaudron.
Bon, on a compris, hein, monsieur Ciotti, c'est bon.
Oui, mais écoutez, trêve de plaisanterie. On a le droit, c'est quand même une chronique humoristique, d'après ce que j'ai cru comprendre.
Normalement,
vous comptez sur vous, monsieur Ciotti, d'ailleurs.
Oui, mais je suis là. Quoi qu'il en soit, encore une fois, par contre, vous m'avez beaucoup fait rire, madame Borne, monsieur Béliard. C'est une séquence très, très drôle. Les auditeurs ont apprécié. Mabrouk a beaucoup ri. Encore une fois, c'est un petit peu de sérieux, s'il vous plaît. Je salue ces mesures. Bon. Elles ont vocation à protéger les personnes âgées, nos aînés, mm-hmm. qui, je le rappelle, constituent tout de même 97% de la population niçoise. C'était donc à la fois nécessaire et concomitant. 97% de la population niçoise. Peut-être ceci explique le fait qu'il y ait très peu de boîtes de nuit à Nice.
Allez, merci Eric Ciotti. Et bon courage. Hein. On va revenir sur la question des tests salivaires dans les écoles. On va en parler avec Jean-Michel Blanquer. Bonjour, monsieur le ministre.
Oui,
alors,
bonjour.
Ça démarre très bientôt, ces tests, hein, je crois.
Oui, car c'est la méthode la plus simple, je crois, en tout cas dans les petites sections, pour récolter les tests salivaires des élèves en primaire. Il suffit tout simplement que l'instituteur ou l'institutrice dise « attention, interro-surprise ». Et nous constatons que dans les 10 secondes, il reçoit sur sa veste en velours côtelé les tests salivaires de ses 24 élèves. Il suffira ensuite tout simplement donc, de d'amener la dite veste au labo le plus proche.
Et pour les grandes sections, alors ?
Écoutez, pour les grandes sections, nous avons fait des expérimentations en lycée. C'est encore plus simple. Il suffit de faire passer la ministre Frédérique Vidal, des universités, dans les couloirs.
Encore elle.
Vous verrez qu'elle sera rapidement, vu sa cote de popularité, recouverte de tests salivaires.
Oh non.
Donc nous aurons juste à emmener son vieux pull au labo, avant de le mettre, bien sûr, ensuite à la poubelle, pour éviter qu'elle ne le remette dans l'avenir.
Merci Jean-Michel Blanquer. On a bien aimé la veste en velours côtelé avec Mathieu.
On est le même prof.
De nouvelles restrictions ont été annoncées dans les Alpes-Maritimes. Il est notamment demandé aux commerçants ayant une surface assez grande d'embaucher un monsieur Covid, un médiateur Covid, pour inviter les clients à respecter les gestes barrières. On va en parler avec le médiateur le plus célèbre de France. C'est Julien Courbet. Bonjour Julien.
Eh oui, ma chère Julie, bienvenue sur Europe 1. Une fois n'est pas coutume, ma chère Julie, cher Mathieu, cher Laurent, bonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver. Effectivement, vous l'avez dit, je suis expert en médiation depuis, allez, 25 ans. Bref, justement, un commerçant a fait appel à nous, ma chère Julie, en tant que médiateur Covid, car il a un litige covidique avec un client. Alors, ce que je vous propose, ma chère Julie, puisque nous sommes sur le terrain, vous savez que nous sommes sur le coup en permanence avec notre téléphone magique, on appelle tout de suite le client sur son portable. Oui, allô, bonjour monsieur, c'est Julien Courbet, médiateur Covid à l'appareil.
Oui, bonjour. Non, mais je m'attendais pas à votre appel, parce que là je suis en train d'acheter des poireaux, donc...
Écoutez, monsieur, désolé de vous déranger en train de vos achats quotidiens. Monsieur, on m'informe qu'il y a un problème coronaviral vous concernant. Vous ne respecteriez pas, c'est d'après nos informations, monsieur, hein, je ne veux pas vous mettre en accusation, mais vous ne respecteriez pas la distanciation réglementaire avec le stand de légumes. C'est 1m50, monsieur, je vous rappelle, 1m50.
Oui, d'accord, moi je veux bien, mais comment je fais pour attraper les légumes si je suis à 1m50 du stand, bon...
Écoutez, monsieur, ce n'est pas moi qui fais les règles, vous l'avez compris, il y a des règles, il faut s'y tenir, c'est le gouvernement. Écoutez, en tout cas, les poivrons, sachez-le, monsieur, c'est une question de responsabilité, vous risquez de les contaminer, de causer le décès d'une personne âgée, monsieur, c'est grave. Chaque fruit que vous touchez, c'est un vieux en réanimation, sachez-le. Vous comprenez, je pense, ce genre d'argumentation, d'abord. Que faites-vous dans ce magasin, monsieur ? Pouvez-vous nous répondre à ce sujet ? Avez-vous une attestation ? Est-ce que vous avez correctement apposé sur votre visage un masque ? Est-il d'ailleurs FFP2 dans les normes ? Et pourquoi voulez-vous des poireaux, monsieur ? Attendez, un instant, monsieur, restez avec nous, je vous passe notre avocat, Maître Novakovic.
Oui, tout à fait, Julien. La loi est très claire là-dessus. Monsieur, c'est 1m50. 1m50, pas 1 cm de plus, monsieur.
Oui, non, mais c'est bon, ça va. Est-ce que je peux acheter mes poireaux tranquilles, là, sans me faire casser les couilles par Julien Courbet et son orchestre, hein, franchement.
Bon, je sens une petite exaspération au ton de monsieur. Alors, on va tenter un compromis, parce que c'est tout de même le propre de la médiation. Êtes-vous disposé à enlever votre pantalon, monsieur, et à laisser le commerçant, qui est un professionnel, prendre votre température anale au moyen de thermomètre qui sera ensuite examiné, bien sûr, par nos avocats et montré à nos téléspectateurs, monsieur.
C'est étonnant.
Bon, apparemment, on a un monsieur qui n'est pas très conciliant. Il a raccroché apparemment. Eh bien, écoutez, ma chère Julie,
Nice n'est pas tiré d'affaire, à mon avis, quand on voit la mauvaise volonté, franchement la mauvaise volonté, de certains habitants là-bas.
Eh ben, merci Julien Courbet, un vrai sketch. Hein.
Je vous en prie.
Le coronavirus se propage au sein du 15 de France. 10 joueurs et 4 membres du staff ont dû être isolés car ils ont été contaminés. Bonjour Bernard Laporte.
Ah. Oui, bonjour ma chère Julie. Bonjour à mon collègue, homme de rugby, homme de l'Ovalier, Laurent Cabrol. Bonjour à Thieu, bonjour à tout le pack. Demi d'ouverture, Jimmy Mohamed. Et je le rappelle, à l'ouvreur de demi, Laurent Cabrol.
Ouvreur de demi, magnifique. Bravo.
Effectivement, vous l'avez compris, on a un gros taux de contagion au sein des Bleus. Après, bon, il faut pas l'oublier, on fait du rugby. Et dans une mêlée, on est à 28 par mètre carré, on se crache dessus, on se postillonne. Il y a de la sueur, il y a du crachat, il y a du sang, il y a de la morve. Et tout s'entassé, on est mélangé. C'est même un miracle qu'on ne chope pas des MST ou de l'herpès. Ah mais franchement, il faut venir pratiquer avec nous, Mathieu. C'est vrai que le rugby, ce n'est pas le sport idéal pour le respect des distanciations sociales. Il fallait faire du tennis, sinon du badminton.
Alors, vous pensez qu'il y a eu du laxisme dans l'application des gestes barrières ?
Ah, c'est vrai, Julie, que dans l'Ovalie, on n'est pas habitué à faire des gestes qui protègent. Et on est plutôt dans le geste qui détruit, tu vois, le geste qui éborgne, le geste qui te fait cracher tes dents. Et mettez-vous à la place des joueurs, ça fait 20 ans qu'ils apprennent quels sont les gestes qui peuvent envoyer l'adversaire en réanimation. Et là, on leur demande d'éviter les réanimations. C'est sûr qu'à un moment donné, ça coince.
Comme vous dites.
Merci Nicolas Cantelou et toute son équipe, les auteurs évidemment, Philippe Cabrivière, Laurent Vassilio, Arnaud Demange, Nicolas Cantelou et Julie. On retrouve la revue de presse sur Europe 1.fr. 8h57, il est là. Philippe Vandel, Culture Média, la matinée continue sur Europe 1. Bonjour Philippe.
Bien sûr, bonjour Mathieu, bonjour Julie. Twitter va-t-il tuer la démocratie ? Bien, c'est la question posée dans le livre J'ai vu naître le monstre. Pendant des années, son auteur, c'est le journaliste du Monde, Samuel Laurent, était accro à Twitter, il s'en servait comme outil de travail. Et puis il s'est lassé des dérives, des injures et des menaces. Il nous racontera au sommaire également la nouvelle saison de Pékin Express qui démarre ce soir sur M6, complètement chamboulée. Le tournage a débuté en pleine pandémie mondiale, il a dû être stoppé, accident mortel, cas de Covid, mais pas mortel évidemment. On en parle avec son producteur Thierry Guillaume et puis l'écrivain Éric Emmanuel Schmitt qui s'est lancé dans un projet très 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 ambitieux, l'histoire de l'humanité depuis le néolithique, 8000 ans, dans une série de 8 romans de 500 pages. Le premier tome sort maintenant, il sera avec nous.
Culture Média de 9h à 11h avec Philippe Vandel et toute son équipe sur Europe 1. Je vous souhaite une très belle journée, je reviens demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé, on va vous le raconter.